Je vous invite à faire une lecture dans le livre des Proverbes, le chapitre 24 et le verset 30. Voilà ce qu'il est écrit. J'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Une autre lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et le verset 1er. Juste le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Alors, en comparant ces deux passages que nous venons de lire, nous nous rendons compte qu'il y a parfois des négligences qui peuvent devenir fatales. Et là, il est montré, bien sûr, question d'un champ qui avait été laissé en jachère, personne ne s'en occupait, et puis c'est des ronces, des épines qui ont poussé, et ensuite le mur, peut-être le mur d'enceinte, s'est écroulé. Et voilà, c'est resté comme ça. Alors, en regardant en comparaison de notre vie à chacun d'entre nous, eh bien, nous pouvons nous approprier un peu ces faits, d'où parfois on peut avoir du relâchement. Et je vais vous en parler. Parfois, le relâchement, c'est aussi la négligence, c'est aussi l'insouciance, l'oubli, c'est ramener les choses à plus tard en ce qui concerne Dieu. Et voilà que la parole de Dieu nous dit que il y a des personnes qui, quand ils entendent l'évangile, la proposition du salut, eh bien, ils le négligent. Et c'est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 3, « Je vous fais grâce, je fais que le citer. » Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. C'est vrai que le salut, mais c'est Jésus. Jésus qui appelle et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a des personnes qui remettent à plus tard, qui disent « Moi, je n'ai pas pour le moment envie de me convertir, je n'ai pas parce que j'ai d'autres affaires à poursuivre » et ils négligent le salut. Ils négligent la vie éternelle. C'est quelque chose de surprenant, mais pourtant je vais en parler un instant. Voyez, un jour Jésus est allé voir, ou plutôt un jeune homme est allé voir Jésus. On l'appelle le jeune homme riche. Et il est dit ceci, qu'il s'est posé quand même cette question. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, tu connais les commandements? Oui, dit-il, je les ai observés depuis ma jeunesse. Jésus a aimé vraiment entendre cela de la part de ce jeune homme. Mais Jésus lui dira, voici ce que je vais te dire. Si tu veux me suivre, si tu veux être parfait, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Et quand vous regardez un peu ce qu'il s'est passé dans le cœur de ce jeune homme, il est dit qu'il est devenu tout triste. Et il s'en est allé, et Jésus s'en est allé. Vous voyez, là, il est question finalement que Jésus disait, si tu veux me suivre, abandonne ce qui fait ta vie, ce qui est ton idole, ce qui est prioritaire dans ta vie, c'est l'argent. Il ne va pas nous demander à nous, comme ça, mais c'est tout simplement nous dire, si tu veux être sauvé, eh bien, change de vie, repens-toi, accepte Jésus comme ton sauveur personnel, abandonne même l'idole, ce qui fait ta vie, ce pourquoi tu poursuis ta vie comme cela, abandonne l'idole. Et ne devenez pas triste, je pense que vous me comprenez. Et j'ai affaire à des personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui ont l'habitude aussi. Je me dis, mais le Seigneur nous tend la perche, pour ainsi dire, à chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons sauvés. Mais quand même, si nous, quand nous entendons son appel, nous le refusons, ou nous le remettons à plus tard, c'est cette négligence qui peut être fatale. Et voyez-vous, il y a bien des gens qui ont négligé certaines choses dans leur vie et les conséquences en ont été fatales, malheureuses. Mais quand il s'agit de refuser le salut ou de le ramener à plus tard, dont on ne sait pas si on aura l'occasion, alors je veux dire aujourd'hui, si quelqu'un entend l'appel de Jésus qui veut te sauver, qui veut te pardonner, qui veut te réconcilier avec Dieu, oh, n'attends pas, ne néglige pas un si grand salut. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux possibilités dans le monde pour être sauvé, pour éviter l'enfer. Il n'y a que Jésus. Crois-le. Ah, c'est vrai, je veux toujours prêcher Jésus-Christ, car il n'a pas été donné d'autre nom sur la terre, personne d'autre, si ce n'est Jésus, pour nous sauver. Alors, si parfois on peut trouver des portes d'échappatoire, non, on ne peut pas, sans quoi on ne peut pas être sauvé. Voyez, il y a un homme qui s'appelait, vous, qui n'en aurait pas entendu parler, il s'appelait Judas. Et vous savez, lui, lorsque Jésus l'a appelé, il a répondu, oui. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Judas. Au fond de son cœur, il a toujours gardé la fraude, le mensonge, le vol, et malgré qu'il entende parler de Jésus, il restait toujours solidement attaché à ce péché. Et voyez-vous, je dis quand même, il faut être fermé, parce que Judas a entendu le plus grand prédicateur au monde pendant 3 ans et demi. Il a vu vivre Jésus sans défaut, sans faute, sans péché. Avec toutes ses preuves, Jésus en plus rempli, revêtu du Saint-Esprit, il a même été envoyé pour aller guérir des malades. Et donc au nom de Jésus, il a vu des guérisons, des miracles. C'est là qu'il est dit dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas de m'appeler Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui disent tous Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Et pourtant, certains vont dire, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé. Nous avons chassé des démons. Non, dira Jésus, il a dit, vous qui commettez l'iniquité. Et donc Judas, finalement, lui, Il a gardé ce péché, il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais voulu le laisser. Et vous savez, la fin fatale. Mais en plus, non seulement Jésus a prêché à Judas, lui a montré l'exemple, mais au dernier moment, au souper, avant que Jésus soit livré et aille à la croix, quand les disciples interrogeaient Jésus en lui disant « Mais qui va te livrer ?»« Celui dont je vais lui tendre le pain, c'est lui qui me livre. » Judas, il faut que tu sois aussi aveuglé pour te dire que finalement, c'est toi, mais il pouvait changer à ce moment-là. Mais au lieu d'ouvrir son cœur, il l'a endurci et il a dit qu'il s'est levé et Satan rentra dans son cœur. Et il a trahi Jésus. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ô de grâce, soyons tous de ceux qui avouent les fautes, se repentent, les délaissent. Et nous savons que Jésus nous pardonne et nous délivre de tout péché par son sang. Alléluia, alléluia. Et vous savez, la négligence, le relâchement, même quand on a été sauvé complètement et qu'on peut vivre avec Jésus librement, il y a dans la vie le temps où il faut s'entretenir. Pour un sportif, c'est le temps avant la compétition. Eh bien, il faut s'entraîner. Et la parole de Dieu le dit, de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui nous crée le vouloir et le faire. Il nous donne la bonne volonté. C'est écrit dans Philippiens 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et il y a des personnes qui ont commencé. Et la parole de Dieu dit, vous aviez pris un si bon départ. Qui vous a arrêté? Et ça arrive comme ça. Alors, j'ai vu dans la parole de Dieu travailler à son salut avec crainte et tremblement, courir sans s'arrêter, ou si tu as mis la main à la charrue, ne te retourne pas, ou regarder à Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Et il est dit, je vais vous montrer comment est une personne qui ne fait que écouter la parole, mais ne la met pas en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Nous le faisons. Mais qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Ce sont ceux qui écoutent sans jamais avoir l'intention de pratiquer la parole de Dieu. Oh, c'est regrettable. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons ce qu'elle est. Mais nous devons vraiment la vivre, frères et sœurs. Amen. Il est dit qu'au temps du prophète Samuel, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. On ne peut pas dire que maintenant c'est rare. La parole de Dieu, elle est diffusée à des milliers de langues, elle est traduite. La parole de Dieu, elle est annoncée, elle est prêchée. Et quant à nous, on a même des fois plusieurs versions de la Bible. La parole n'est pas rare. Mais il est dit quand même, au temps de Samuel, que lui ne laissait aucune parole tomber à terre. Aucune parole. C'est-à-dire, ah, c'est la parole de Dieu, je l'entends, je la reçois, mais je vais l'expérimenter, je vais la pratiquer. Amen. Et ça, c'est important. Et je reviens à celui qui s'est regardé au miroir, mais il oublie. Et c'est ça, ce qui se passe souvent. Quand on entend la parole de Dieu, eh bien, il est dit que l'ennemi vient pour enlever la parole. C'est dans la parabole du semeur. Pour que nous ne puissions pas croire, et nous ne puissions pas être sauvés. N'oublions pas. N'oublions pas même ce que nous avons et ce que nous entendons ce matin. mettez-le dans la mémoire. Jésus un jour a dit à ses disciples, n'avez-vous point de mémoire? Vous avez oublié. Il nous faut retenir la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous jugera. C'est elle que nous retrouverons dans l'éternité. Mais c'est tellement important. Tous les livres des bibliothèques à foison passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est même Jésus qui l'a cité à Satan, qui voulait le tenter, mais il a déménagé. Parce que, au nom de Jésus, au nom de la parole qu'il disait, eh bien, Satan s'en est allé. Oh, la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, le monde ne la connaît pas toujours. Il y a des personnes qui ignorent ce qui est dans la Bible. Mais j'ai vu dans 2 Corinthiens 3, verset 3, « Vous êtes une lettre écrite, connue et vue de tous les hommes. » Ils ignorent parfois ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais notre comportement, notre façon de vivre, notre manière de parler montre ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes une lettre. Les gens lisent. Les gens lisent et même des fois, ils peuvent dire, mais vous êtes chrétien pour faire ça? Vous êtes chrétien pour dire ça? Pourquoi? Ils n'ont même pas lu la parole de Dieu. Mais rien qu'en voyant la vie de certains, ils peuvent savoir s'il y a quelque chose de semblable écrit dans la parole de Dieu quand nous nous comportons selon la parole de Dieu. Alléluia. Et vous savez, s'entretenir, ne pas négliger, ne pas se relâcher, eh bien, c'est passer du temps à lire. Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, c'est se dire, mais est-ce que je le fais? Ou il dit, rendez grâce en toutes choses. Abondez en actions de grâce. Priez et faites-le avec action de grâce. Est-ce que je le fais? Je sais beaucoup de choses. Même les théologiens savent beaucoup de choses. Mais parfois, c'est juste pour affiner la connaissance. Je ne veux pas les juger. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas pour simplement la connaître. Elle est pour qu'elle nous conduise et qu'elle nous dirige. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et finalement, dans la nuit de ce monde, eh bien, avec la parole de Dieu, nous avons la lumière. C'est normal ceci, c'est normal cela, c'est normal cette nouvelle loi, c'est normal qu'il ait été voté une telle permissivité, tout ça. Mais la parole de Dieu, c'est une lampe. Nous ne devons pas juger l'obscurantisme qui touche le monde. Mais la parole de Dieu, c'est la lumière. Amen. Et je vous dis, frères et sœurs, c'est important de s'attacher à la parole de Dieu. Vous, jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu le diable à cause de la parole de Dieu qui demeure en vous. Vous le lirez dans l'épître de Jean. Alléluia. Et on se rend compte que si le diable peut essayer de séduire, de tenter ou de faire chuter, mais la parole de Dieu nous dit qu'on est fort contre le diable. Alors, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Jésus a été tenté par Satan directement, Satan l'a tenté une fois, deux fois, trois fois, mais Jésus n'a pas rétorqué en disant, mais attention, je suis le Fils de Dieu. Il n'a même pas dit ça. Il a dit, il est écrit. Et quand il a dit, il est écrit, le diable l'a laissé pour cette tentation. La deuxième tentation, le diable revient. Il lui a dit de se jeter du haut du temple. Mais il est écrit. Il est aussi écrit. Jésus s'est défendu comme ça. Et en troisième lieu, le diable essaye de le tenter pour que tu te prosternes devant moi, dit le diable. Je te donne le monde, les gloires du monde. Car il est écrit, a dit Jésus, tu ne te prosterneras et tu n'adoreras que Dieu seul. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui nous retient face aux tentations. Et on peut rétorquer, on peut chasser l'ennemi grâce à la parole de Dieu que nous avons entendue et que nous croyons et que nous serrons dans notre cœur pour ne pas pécher contre le Seigneur. Ô frères et sœurs, ne négligeons pas, parce que la parole de Dieu, elle a un commencement et elle est scellée. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas inventer des traditions, des idées ou d'autres choses qui ne marchent pas, qui sont des fois de la philosophie, de la psychologie, que sais-je. La parole de Dieu, elle a un début, elle est scellée, ça ne va pas plus loin, mais elle est suffisante pour que nous menions une vie à la gloire de Dieu, pour que nous menions une vie jusqu'à la ressemblance de Jésus, parce que nous la lisons, parce que nous l'entendons prêcher, parce que nous la serrons dans notre cœur, parce que nous ne l'oublions pas, parce que nous ne nous relâchons pas à l'endroit de la vigilance. Amen. Et enfin, frères et sœurs, le relâchement, vous l'avez lu avec moi, Luc 18, verset 1er, voilà la parabole, afin que, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là encore, je ne peux pas négliger. Nous ne pouvons pas négliger la prière. Oh, mais il y a beaucoup de gens qui prient. Mais la prière, selon la parole de Dieu, c'est veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Et si nous négligeons de veiller, de prier, il arrivera ce qui est arrivé à Pierre. Jésus est allé prier à une longueur d'un jet de pierre, les laissant en leur disant « Veillez, priez ». Jésus revient, les trouve endormis. Il repart, il revient. Il a dit « Pourquoi dormez-vous ? Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et vous savez, si Pierre avait veillé, il ne serait pas passé par la lâcheté, disons le reniement, parce que la prière nous permet d'être gardés à l'endroit de Satan et des démons qui veulent nous faire chuter dans le péché, dans le mal. Veillez et priez, votre chair est faible. On est fragile, on est sensible à l'appel du diable et du monde et du péché. Mais quand on prie comme le Seigneur le dit, eh bien nous sommes gardés lors de la tentation. La tentation, ce n'est pas un péché. C'est quand on cède. Mais avant de céder, il y a « je veille ». Je ne néglige pas. J'observe les pensées que j'ai. J'observe ce que mes yeux regardent. J'observe ce qui se passe en moi. Je veille. Mais je prie. Et quand on prie, on s'adresse au Seigneur. Et c'est lui qui dit qu'il répond à la prière. Alléluia. Et puis la parole de Dieu dit qu'il faut même persévérer dans la prière. À tel point que, il y a la parabole, vous la lirez chez vous encore, comment cette veuve devant le juge unique, elle lui a cassé la tête, elle y est allée. Et elle a dit, je ne le laisserai pas aller jusqu'à qu'il me fasse justice. Et Jésus a dit, voilà, ce qui crie à moi jour et nuit, je ne tarderai pas à leur égard, je leur ferai promptement justice. Mais se dit-il, quand je viendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Et voyez-vous, la persévérance, c'est la foi. Parce que quand on continue à demander, à prier, le Seigneur il dit, ah, voilà quelqu'un qui ne décroche pas. Quelqu'un de pugnace, quelqu'un de téméraire, mais dans le bon sens. Quelqu'un qui ne lâche rien. Il va prier, il va prier, il va persévérer, parce qu'il a la foi. Seigneur, de toute façon, tu as dit, demandez, vous recevrez. Donc, il y a des prières que l'on fait, dont on n'attend même pas la réponse pour la voir, parce que je sais que de toute façon, on la verra, sur terre ou dans le ciel. Alléluia. Et c'est là que souvent, il y a de la négligence dans la prière. Et Jésus vient parler aussi que quand tu pries, quand tu veux prier, eh bien, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, c'est très difficile aujourd'hui de se soustraire à tout ce qui peut nous être proposé. Tout, vous le savez. On est dispersé, on est occupé. Il y a plein de choses en plus de tout ce que le monde nous propose et veut nous faire voir. Il y a encore nos pensées, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Et on se rend compte finalement que certains, eh bien, n'arrivent pas à s'isoler. Et le Seigneur, finalement, nous dit, c'est dommage que tu négliges d'être devant moi. Tout simplement, c'est bien de prier en réunion de prière. C'est bien, il le faut. Si deux s'assemblent pour être d'accord, pour demander une chose, elle leur sera donnée. Mais la prière personnelle, et on peut se demander, je ne vous pose pas la question, est-ce que je passe du temps devant le Seigneur? Est-ce que j'ai beaucoup de joie d'être avec lui? Est-ce qu'il y a, il n'est pas écrit, il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, le meilleur. Mais parfois on néglige, parfois on laisse tomber, parfois on se soustrait parce qu'on veut être toujours en action, avoir nos pensées en action. Mais non, le Seigneur dit, entre dans ta chambre et là, dans le secret, tu peux lui parler ou dans le secret, écoute. Écoute la parole de Dieu qu'il te rappelle. Écoute sa consolation, son encouragement, son amour pour toi. Son vœu le plus cher, c'est de pouvoir continuer à te préparer une place quand tu seras au paradis. Amen. C'est pour cela que je dis, mes frères et sœurs, vous savez, l'Évangile n'impose jamais, donc ce n'est pas moi qui vais vous imposer, mais passez du temps devant le Seigneur. Chaque jour, on va manger. Chaque nuit, on va dormir. Comment? On n'a pas du temps pour passer devant le Seigneur. Quel relâchement des fois. Quelle négligence des fois qui peut nous être tellement fatale. Mais le Seigneur, au contraire, nous encourage. Viens à moi. Et viens à moi avec tes fatigues, avec tes charges, avec toutes tes tristesses, avec tes chagrins, viens à moi et je vais te décharger de tout ce qui est lourd, ce qui te pèse. Et c'est vrai qu'au regard du retour de Jésus, eh bien, la parole de Dieu le dit que prenez garde, que vos cœurs ne s'apesantissent, c'est-à-dire s'alourdissent par le manger, le boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Mais veillez et priez pour que vous soyez debout lorsque le Fils de l'homme viendra. Regardez comment certains, pour ne pas venir, ne pas donner du temps au Seigneur, ils vivent avec des charges, des fardeaux que le Seigneur, il y a bien longtemps, aurait voulu vous décharger parce qu'il les a pris. Parce qu'à la croix du calvaire, il n'a rien oublié, tout a été accompli. Il n'a rien laissé au hasard de tout ce qui est inhérent à l'existence d'un être humain. Il n'a rien laissé au hasard. Il a tout accompli, tout vaincu. Il faut venir à lui et lui accorder du temps. Le temps a passé. Je conclus ainsi. Vous savez, la négligence, c'est aussi l'oubli qu'un jour, nous ne serons plus là. Nous ne serons plus sur la terre. Tôt ou tard, on ne sait à quelle heure, nul ne connaît son heure, on partira. Et tout en la vie tend à nous faire oublier, avec toutes les recherches et les avancées technologiques, bon, je ne critique pas, mais des fois on a l'impression que tout est fait pour la terre, pour la vie ici-bas. Et après, nous devons penser qu'un jour on va quitter la terre. Et que la chose la plus importante dans la vie et au monde, c'est de pouvoir s'assurer que l'on sera avec le Seigneur éternellement, que quand on traversera la vallée de l'ombre de la mort, on n'aura pas l'épouvante, on n'aura pas la peur, mais je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Jésus est passé par la mort, mais il est ressuscité et nous donne la promesse que nous ressusciterons et que nous serons avec lui éternellement. C'est pas une espérance, ça? Comme Vincent nous en a parlé, c'est une espérance. Quelle espérance! Mais des fois, on néglige et on fait tout pour la terre et on oublie le plus important. Et le Seigneur a voulu aller par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Dites-leur que c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on peut être sauvé, on peut être pardonné, on peut être changé, on peut être délivré de la prison du diable. Dites-leur partout. Et il faut y penser. Vous savez, un homme, il a dit le mauvais riche. Lui, il a dit, ah, maintenant... j'ai beaucoup gagné, je vais abattre les greniers, je vais en construire de plus grands, et je vais dire à mon âme, repose-toi, mon âme, car tu as de grands biens. Mais furtivement, il est arrivé une voix qu'il n'attendait pas, et cette voix de Dieu lui a dit insensé, c'est-à-dire dépourvu de sens, si vous ne voulez pas dire quelqu'un de fou. Ton âme va t'être redemandée cette nuit. Pourquoi auras-tu vécu? Je dis, vous savez, pour ce riche insensé, c'est une grâce de Dieu ce qu'il a entendu. Parce qu'il a pu, à ce moment-là, se préparer. Mais tout le monde... n'est pas avisé comme ça ou n'entend pas. En tout cas, il avait le temps avant la nuit de se repentir, de dire « Seigneur, pardon, et pardon tout mon vécu sans toi où je t'ai résisté, pardon !» Il a pu le faire, mais il y en a, vous savez, la mort, elle est subite. Tout d'un coup, le cœur, là, on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui fait les battements. Tac, tac, au repos 70, pulsation minute, peut-être 200 pour ceux qui font du sport. Mais les pulsations là, c'est Dieu qui les fait marcher. Tout peut s'arrêter. Mais je ne veux pas vous faire peur parce que vous le savez, tout ce que je suis en train de vous dire, mais soyons prêts. Et ne négligeons pas ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit aussi, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous les sachiez avant que cela n'arrive. Jésus revient quand? Dans la première étape, c'est tous les croyants qui allons partir avec le Seigneur. Mais on ne sait ni le jour ni l'heure. À quel moment, nous ne le savons pas. Le Seigneur a simplement dit, regardez en quel temps nous sommes. c'est l'heure de vous réveiller. Réveillons-nous pour être prêts. Mais je vais plus loin. Vous savez que quelqu'un qui est prêt, il prépare les autres. C'est pas de l'ego. Se dire, ah, je suis prêt, ah, Seigneur, fais-moi du bien, ah, Seigneur, je veux. Et nos enfants, et nos familles, et nos parentés, et les collègues de travail, et les gens qu'on croise dans la rue, et le monde, et d'autres pays. Nous, on est prêts, nous, on chante les louanges, gloire à Dieu, mais c'est vrai, il faut le faire. Mais quand je pense à tous ceux qui ne sont pas prêts, tous ceux qui sont perdus, mais quand ils voient que nous sommes la lumière, que nous sommes une lettre de Christ, que nous sommes vraiment prêts et que nous n'avons pas peur de la mort, eh bien, nous pouvons aussi parler de Jésus et les amener à être aussi préparés. Amen. Et beaucoup d'entre nous peuvent être des personnes qui sont l'objet d'avoir été évangélisées. On vous a témoigné, on a peut-être même prié pour vous, vous ne le saurez jamais qui c'est qui a prié pour vous, et vous êtes sauvés. Vous savez, quelqu'un de prêt, c'est quelqu'un qui prie pour les perdus, afin qu'ils soient sauvés. Je vous exhorte avant toute chose à faire de prières pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, arrêtons la négligence. Le roi Ézéchias a dit un jour, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour vous tenir devant Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous enrichisse, que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions nous interdire d'accepter la négligence, d'accepter l'inattention, l'insouciance qui viendrait nous saisir. Mais Seigneur, je me réveille, je suis avisé, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je me décide de t'obéir jusqu'au bout. » Et le Seigneur, il dit, n'oublie pas, tu as une mémoire, n'oublie pas la parole. Même en sortant, l'ennemi voudrait, tac, te faire parler d'autre chose. N'oublie pas et mets-la en pratique quand tu arrives chez toi. C'est la condition la meilleure. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Seigneur, aide-nous à vivre vraiment ta parole. Aucun relâchement chez nous ne pourrait s'inscrire dans notre mode de vie. Seigneur, même tu nous dis que tu nous donnes le vouloir et le faire, c'est-à-dire que par grâce, je peux arriver à accomplir ce que je viens d'entendre de ta parole. Par grâce, tu m'en donnes le pouvoir et le vouloir. Seigneur, merci, merci parce que je t'ai demandé qu'il y ait des miracles aujourd'hui. Et Seigneur, je sais que ces miracles se sont accomplis et qu'ils vont en voir encore de plus grands, nous tous. Au nom de Jésus, amen.